penche pour le journal des Amériques d'Haïti. Adrien, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous. 23 juillet de Mexico à Lima, de New York à Port-au-Prince. Bienvenue dans votre journal des Amériques.
RFI.
Dans cette édition, le Covid-19 sur le continent américain continue de faire des ravages. Nous serons au Pérou, au Brésil, au Venezuela et aux États-Unis. En Haïti, c'est un navire chargé d'essence qui se fait attendre. Le carburant doit permettre de faire tourner des générateurs pour que les Haïtiens aient un peu d'électricité. Il sème la terreur. Au Mexique, c'est un cartel. Son nom, Jalisco Nouvelle Génération, créée il y a un petit peu plus de 10 ans. Sa richesse est due à la vente de cocaïne. La tête de son chef a été mise à prix par les Américains. Marie Normand nous décrira l'influence de ce cartel. Et puis enfin, nous irons en Martinique, où une manifestation contre les violences policières s'est déroulée hier soir à Fort-de-France. La crise sanitaire du coronavirus s'intensifie au Pérou. Malgré un confinement prolongé jusqu'à la fin du mois de juillet, Arequipa, la deuxième ville du pays, fait face à une explosion du nombre de cas de contamination et du nombre de morts dus au coronavirus. Résultat, les hôpitaux de la ville sont débordés. Le personnel de santé et les familles des patients en colère dénoncent la mauvaise gestion des autorités. Au Pérou, pour RFI, Viloen Munoz-Boileau.
Cette vidéo a fait le tour des médias péruviens. On y voit une jeune femme désespérée courir en pleurs derrière le véhicule du président Martin Vizcarra, l'implorant de venir en aide à son mari atteint du coronavirus et en attente d'un lit depuis 5 jours. La vidéo a été tournée dimanche dernier lors d'une visite officielle du chef de l'État à Arequipa. Auparavant, le président avait rendez-vous à l'hôpital de la ville dédié aux patients Covid, mais avait été forcé de rebrousser chemin. Des familles, des patients et des membres du personnel médical lui avaient alors barré la route en dénonçant l'inaction du gouvernement face à la crise sanitaire. En effet, depuis plusieurs jours, des centaines de patients Covid et leurs familles campent devant cet hôpital. À l'intérieur, on manque de tout, lits, médicaments, oxygène et personnel de santé. Ces derniers dénoncent des conditions de travail déplorables. Javier Gutiérrez est doyen du collège médical d'Arequipa.
Plusieurs collègues se retirent pour diverses raisons. Parce qu'ils sont contaminés, car les équipements de protection sont insuffisants et de très mauvaise qualité, parce qu'ils sont maltraités par les autorités et parce que plusieurs d'entre eux n'ont pas été payés à temps.
Une partie du personnel de santé impute ces problèmes à la mauvaise gestion d'Elmer Cáceres. Le gouverneur régional fait déjà l'objet de 3 plaintes au pénal pour son inefficacité dans le traitement des cas de coronavirus à Arequipa. Malgré la gravité de la situation sanitaire dans la région, hier, le président péruvien s'est contenté d'annoncer l'intervention prochaine du gouvernement central. Viloen Munoz-Boileau, Lima, RFI.
Radio France Internationale, las voces del mundo.
RFI à Paris, 15h13, nous nous intéressons à cette actualité mexicaine. Nous parlons de ce cartel, le cartel Jalisco Nouvelle Génération, qui a fait les gros titres ces dernières semaines, alors que plusieurs attaques de hauts fonctionnaires lui ont été attribuées dans la capitale Mexico. Aujourd'hui, cette organisation criminelle est considérée comme la plus puissante du pays. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Marie Normand, bonjour.
Bonjour Adrien.
D'abord, dites-nous à quand remonte la création de ce cartel.
Alors c'est en 2009 que le cartel Jalisco Nouvelle Génération revendique sa création, mais les membres qui la composent étaient actifs dans différents trafics, notamment de drogue, depuis la fin des années 90. Non pas dans le Jalisco, mais un peu plus au sud, dans le Michoacán. Romain Lecourt-Grandmaison est cofondateur du centre de recherche Noria et chercheur à l'université Paris-1-Sorbonne.
Les hommes qui composent cette organisation en 2009 sont en réalité expulsés de leur région d'origine par un groupe rival. C'est pour cela qu'ils se déplacent et qu'ils créent cette organisation un tout petit peu plus au nord, en s'installant donc sur la frange pacifique de la région du Jalisco au Mexique et de la région du Colima, juste à côté.
Alors, le cartel monte en puissance, Marie. Surtout ces dernières années, il serait présent aujourd'hui dans au moins 29 des 32 États du Mexique.
Oui, et ce qui est intéressant, Adrien, c'est comment il s'y est implanté, non pas par la conquête de territoire, mais plutôt grâce à un réseau d'alliances avec des groupes criminels de toutes les tailles, des franchises, on peut dire. Et ces hommes ne sont donc pas présents partout. En tout cas, ce réseau a progressivement permis à Jalisco Nouvelle Génération de contrôler des points stratégiques comme les ports. Le cartel s'en sert pour réceptionner et écouler la cocaïne venue d'Amérique du Sud et pour se procurer les composants nécessaires à la production d'une autre drogue qui est devenue sa spécialité. Écoutez, Maria Teresa Martinez, elle est professeure à l'Institut de Technologie et d'Études Supérieures de Monterrey.
Cette cartel est particulier parce qu'il contrôle les marchés de méthamphétamine. Ils ont été dans les business de méthamphétamine depuis des années, au moins depuis les années 90. C'est un business qui est devenu de plus en plus important.
Alors, ce qui est intéressant, Marie, c'est que la quasi-totalité de cette drogue produite au Mexique est vendue aux États-Unis.
Oui, c'est le marché de consommation le plus important au monde. Plus d'1,6 million Américains en avaient consommé au moins une fois en 2017. Jalisco Nouvelle Génération se retrouve donc très vite dans le collimateur de la DEA, l'agence antidrogue américaine. Notamment son chef, Nemesio Oseguera Cervantes, dont la tête est mise à prix 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation.
Un homme, justement surnommé El Mencho, alors que sait-on de lui ?
Eh bien, assez peu de choses, Adrien. Il est né dans une famille pauvre, il a été policier, puis tueur à gages. C'était l'homme de main de l'ancien chef du cartel de Milenio avant d'être forcé à l'exil. À noter, il est très discret, contrairement à d'autres, pas de communication sur YouTube ou dans les médias. Récemment, l'agence américaine anti-drogue a mené des opérations contre certaines de ses propriétés, des membres de sa famille, et puis des opérations spectaculaires comme l'opération Python au Texas. Plus de 600 personnes arrêtées, tous des membres du cartel, selon la DEA. Pour Romain Lecourt Grand Maison, c'est un peu plus compliqué. La plupart de ces personnes n'auraient jamais eu de contact direct avec le cartel, des prestataires de services qui permettent juste la distribution de la drogue.
Alors, ces attentats récents jusque dans le centre de Mexico, Marie, est-ce une réponse à ces opérations anti-drogue ?
Alors d'abord, ce que rappelle la chercheuse Maria Teresa Martinez, c'est que cette violence n'est pas une nouveauté. En 2015, par exemple, les hommes d'El Mencho avaient tué 20 policiers dans deux embuscades, puis utiliser un lance-roquette pour abattre un hélicoptère de l'armée. Ce qui choque, bien sûr, c'est que cela se produise maintenant dans la capitale et que ces attaques visent des personnages publics de très haut niveau. Jalisco Nouvelle Génération est suspecté d'avoir cherché à abattre le chef de la police de Mexico en plein jour et en plein quartier huppé. Et ce, quelques jours après l'assassinat revendiqué cette fois d'un juge fédéral. Un message adressé aux autorités publiques, selon Romain Lecourt Grand Maison.
On a la capacité de vous frapper et de frapper ce type de personnalité. Donc, plutôt que de se faire la guerre, négocions. C'est important de comprendre, je pense, que les relations entre les groupes criminels et l'État ne sont pas des relations qui sont fondées sur une opposition absolument parfaite et totale. Au contraire, la violence ne résulte pas d'une attaque, si vous voulez, visant à faire disparaître l'État mexicain. Ça n'a pas provoqué un tournant stratégique de la part du gouvernement mexicain. On est dans des logiques de collusion, des logiques de corruption, des logiques de collaboration, mais surtout de négociation.
Et première victime de ces négociations pour maintenir les différents business de ce cartel et des autres, la population civile. 35 600 homicides l'année dernière, un record.
Un dossier Amérique signé Marie Normand est à retrouver quand vous voulez sur notre site internet RFI.fr.
RFI, la radio del mundo.
Nous sommes à présent avec Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Adrien. Bonjour.
Pour la revue de presse des Amériques, direction avec vous Arim, les États-Unis, où je le disais dans les titres, l'hospitalisation des patients Covid-19 a presque atteint le niveau d'avril dernier, Arim.
Oui, plus de 59 000 personnes reçoivent actuellement des traitements dans les hôpitaux, soit presque autant qu'en avril dernier, lors du premier pic, selon le New York Times. Eh bien, c'est le nombre d'hospitalisations et non pas les décès ou les contaminations qui donnent une idée de la propagation du virus. Le taux d'hospitalisation est en hausse et cela montre que la pandémie touche désormais tous les États, notamment ceux du Sud, alors qu'elle se limitait à quelques clusters importants en avril dernier.
Alors la pandémie continue donc à faire des ravages, vous nous le disiez, et cela affectera aussi lourdement la campagne pour l'élection présidentielle de novembre.
Oui, d'après le Washington Post, les autorités électorales des États préparent massivement l'organisation d'un vote à distance, par courrier. Donc, pour l'instant, plus de trois quarts des Américains pourront opter pour cette méthode en novembre prochain. Certains États ont déjà mis en place un vote à distance automatique. D'autres acceptent que les électeurs ne se rendent pas aux urnes, mais il leur faut une excuse valide. La simple peur du virus n'est pas un argument recevable, en tout cas pour l'instant, Adrien.
Ce scénario arrive, à savoir le vote à distance est constamment dénigrée par le président Donald Trump. Il ne cesse de pointer les risques de fraude que comporterait ce dispositif.
Oui, des risques que tous les experts ont toutefois écartés, mais devant l'insistance de Donald Trump de délégitimer le processus électoral, certains se demandent ce ce qui se passerait si le président refusait d'accepter sa défaite. Selon le Washington Post, ce scénario est de plus en plus évoqué par les experts et des élus, y compris républicains à Washington. Donald Trump pourrait par exemple revendiquer la victoire avant même la fin du dépouillement. Selon le Washington Post, le recours au vote à distance pourrait considérablement ralentir ce processus des jours, voire des semaines avant d'obtenir des résultats définitifs.
On s'intéresse à présent à l'actualité brésilienne, où la presse s'intéresse à Harim Leopoldo au projet de vaccin, un vaccin développé par l'université d'Oxford.
Oui, ce projet a produit une réponse immunitaire importante et serait sûr pour les patients. Un des chercheurs qui participe au développement du vaccin est un jeune Brésilien de 34 ans. Il est le coordinateur des tests et dans une interview avec l'hebdomadaire brésilien Carta Capital, Pedro Forigati qualifie les premiers tests de prometteurs, mais pour juger de l'efficacité du vaccin, Adrien, eh bien, il faudra, selon lui, attendre encore plusieurs mois. Le scientifique appelle notamment à la population à ne pas baisser la garde. Il faut, explique-t-il, absolument maintenir les mesures de distanciation sociale et maintenir surtout le port du masque.
Et pour terminer votre revue de presse, nous prenons la direction du Venezuela. La crise du coronavirus a profondément changé le paysage. Paysage des petits commerces dans la capitale Caracas.
Avec des restrictions ordonnées par le gouvernement, seuls les magasins d'alimentation, les pharmacies et autres commerces jugés essentiels pouvaient rester ouverts. Une situation qui a eu un grand impact dans la vie de Francis, vendeur de chaussures, comme il explique dans le journal El Nacional. Une fois ses économies dépensées, eh bien, il a dû trouver d'autres sources de revenus. Francis a donc décidé de vendre de la farine plutôt que des chaussures. Même reconversion commerciale pour Oriana. Elle a décidé de transformer l'entreprise familiale, un studio de photos qui existait depuis 60 ans, en une épicerie. Et Oriane de se justifier dans le journal El Nacional. Qu'est-ce que les gens achètent en ce moment? Eh bien, c'est de la nourriture.
Et ce sera le mot de la fin de votre revue de presse. Merci à Harim Leopold.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Port-au-Prince, où nous attend à présent Franz Duval. Bonjour Franz.
Bonjour.
Journaliste, rédacteur en chef du Nouvelliste. Avec vous, nous parcourons les principaux articles du journal. Et l'on commence, Franz, par deux éléments que les Haïtiens attendent aujourd'hui. D'une part, l'arrivée d'un tanker qui transporte du diesel et puis le retour d'un peu d'électricité. Alors dites-nous tout d'abord, Franz, en quoi ces deux choses sont-elles liées?
Ces deux choses sont liées parce que le diesel va permettre d'avoir de l'électricité. D'abord pour les génératrices de la Compagnie nationale d'électricité, mais aussi pour les compagnies privées, pour les domiciles, parce qu'en Haïti, où l'électricité est très rare, où le rationnement est très sévère, quasiment chaque famille en capacité a sa génératrice, a ses moyens pour générer de l'électricité. Mais depuis quelque temps, il n'y avait plus de diesel et personne ne pouvait plus produire de l'électricité, ni la compagnie privée, ni les résidences ou bien les entreprises haïtiennes. Le tanker est attendu, très attendu. Ça fait plus d'une semaine que le tanker est en retard. Le premier tanker était arrivé, n'avait pas pu décharger sa cargaison car le bateau n'était pas calibré pour le tirant d'eau des quais de débarquement. Le gouvernement a pris le contrôle des importations de carburant et depuis que le gouvernement a pris des compagnies privées le contrôle des importations de carburant, il y a des ratés, il y a des retards. Il y a des difficultés d'approvisionnement, à la fois pour les automobilistes, mais surtout pour l'industrie, pour les entreprises et pour la production d'électricité.
Alors pour l'électricité, cela fait maintenant des jours que le Nouvelliste traite la saga de l'entreprise publique d'électricité et puis des promesses du président Jovenel Moïse. Franz Duval, est-ce qu'il y a des avancées en la matière?
Il y a des avancées. Ce matin, les unités spécialisées de la police ont investi le siège central de la compagnie d'électricité. Depuis 15 jours, le président a nommé un nouveau directeur. Ce nouveau directeur n'a jamais pu prendre fonction. Le syndicat qui contrôle l'entreprise s'y était opposé. Le syndicat avait même pris en otage les locaux de l'entreprise d'électricité d'État d'Haïti. Ce matin, les unités spécialisées de la police ont investi les locaux très tôt et vont essayer de déloger les syndicalistes qui s'y trouvent. Oh. Tout ça veut dire qu'il y a un vrai problème d'électricité en Haïti, à la fois dans la production, dans le transport, dans la distribution et dans la commercialisation. Le président Moïse a promis de nouvelles centrales, de nouvelles capacités de production, mais pour que tout cela ait un sens, il faut que l'entreprise d'électricité d'Haïti soit sous contrôle, soit mieux gérée.
Autre sujet à lire dans le Nouvelliste, c'est la démission du chef du parquet de Port-au-Prince. Alors pourquoi cette démission est-elle aussi importante pour la justice?
Alors, le chef du parquet, qui est le commissaire du gouvernement, comme on l'appelle en Haïti, il fait l'interface entre la société et les autorités judiciaires. C'est lui qui lance les poursuites au nom de la société. Ce poste est un poste très important parce que c'est lui aussi qui est en quelque sorte le bras du gouvernement dans la question de justice. Il démissionne, c'est peut-être le 12e ou le 15e en 10 ans qu'il ne peut pas rester en poste. Cette démission est symptomatique parce qu'il y a eu des échanges de lettres entre le commissaire et le ministre de la Justice qui est son supérieur hiérarchique. Et dans les échanges de lettres, ces deux autorités qui sont placées au sommet de l'appareil judiciaire en Haïti se sont accusées des choses les plus graves. Aujourd'hui, c'est le commissaire qui s'en va. On s'attend à ce que le ministre de la Justice aussi donne des explications sur les accusations qui sont éteintes de la lettre de démission du commissaire du gouvernement. Mais il faut dire qu'il n'y a pas un mois depuis que le dernier ministre de la Justice a remis sa démission. Ça fera un peu beaucoup.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonne journée à vous et à tous nos auditeurs haïtiens. À bientôt, Franz.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Odan Agiali. Bonjour Odan.
Bonjour Adrien.
Et nous revenons avec vous sur cette manifestation en Martinique hier soir contre les violences policières.
Oui, un rassemblement organisé une semaine après l'interpellation musclée dans les rues de Fort-de-France d'un jeune homme, Kézia Nuissier. Et une manifestation rassemblant au son du tambour militants anti-chlordécone, associatifs, organisations politiques et anonymes. À la maison des syndicats à Fort-de-France, le reportage de Christine Cupit.
La maison des syndicats semble presque trop petite pour accueillir la foule de manifestants.
C'est dommage d'attendre qu'il y ait un blessé pour en arriver là, mais les gens ont vu qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et moi, je remarque la différence entre, par rapport aux autres fois où là, à l'unanimité, tout le monde dans ma famille a décidé de venir, du plus grand, du plus vieux au plus jeune.
L'interpellation musclée de Kézia Nuissier par les gardes mobiles alors qu'il jouait du tambour a marqué les esprits, même chez les plus jeunes.
La police est faite pour défendre aussi, c'est pas fait pour la violence.
Quand on voit les images, en fait, on a le sentiment que c'est son enfant qu'on est en train de torturer, de battre, et on voudrait pas que ça arrive à son enfant. Et c'est important aussi de transmettre aux enfants que l'injustice ne peut pas rester impunie.
On peut pas rester dans une justice à deux vitesses, avoir des personnes pour qui les procédures se font quasiment instantanément et d'autres où on attend depuis 5 ans.
Une déclaration commune a été rédigée, baptisée la déclaration du 22 juillet 2020, pour demander aux autorités de l'État des réponses concrètes à l'empoisonnement au chlordécone et aux pesticides, ainsi qu'aux problèmes de santé et de violence.
Kézia Nuissier se trouve toujours à l'hôpital dans un état préoccupant. Le procureur de la République de Martinique a saisi l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour faire toute la lumière sur cette interpellation. Si le jeune homme a été mis en examen pour violence contre les forces de l'ordre, il a lui aussi décidé de porter plainte. Remarque sexiste, proposition indécente, la Martinique serait-elle la championne du harcèlement de rue? C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude en ligne menée pour le compte de la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et pour la sociologue Nadia Chonville, la Martinique détiendrait bien des records en la matière.
Vous avez une minorité d'hommes qui considèrent que dans l'espace public, eh bien, les femmes sont des objets de consommation sexuelle dont ils peuvent user. C'est pour l'ensemble du territoire national, on a 20% de femmes qui déclarent avoir été victimes de violences de genre dans l'espace public au cours des 12 derniers mois. En Martinique, on est à 57%. Et c'est plus que l'endroit où il y a le plus de violences sur dans l'espace public envers les femmes sur l'Hexagone, c'est-à-dire l'Île-de-France. En Île-de-France, on est à 37%. En Martinique, on est à 57%. Donc c'est quand même assez considérable.
Nadia Chonville avec nos confrères de Martinique la première. Et puis Gonzalo, c'est le nom de cette tempête tropicale qui se dirige en ce moment vers les petites Antilles. Elle devrait traverser l'arc antillais demain ou après-demain et pourrait toucher le sud de la Martinique. À demain.
Merci Odan Agiali. À demain pour de nouvelles informations ultramarines diffusées quotidiennement sur Radio France Internationale. C'est la fin du journal des Amériques et d'Haïti. Rédaction en chef Véronique Guémard, mise en ondes de Claude Battista. Toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
RFI, toute l'actualité à retrouver sur rfi.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr. Envie d'une boîte.